Nous sommes maintenant assez familiarisés avec Venise, à la suite des promenades que nous venons de faire, pour être dignes d'entrer dans le Saint des Saints, je veux dire le Café Florian. Seuls les vieux Vénitiens ou les amants et les amis de Venise ont vraiment le droit d'obtenir cette dignité, de se trouver dans un de ces petits cabinets décorés de charmantes peintures de l'époque Napoléon III, de la fin du XIXe siècle, et qui ont pris la suite d'ailleurs d'un décor du XVIIIe qu'on évoque avec mélancolie et sans avoir de documents sur lui. Ça a été toujours ici le centre de la vie vénitienne.
Les salles du Café Florian ont un charme qui tient à leur exiguïté et à leur décoration. Elles ne sont guère plus grandes qu'une loge de théâtre, basse de plafond, et toutes revêtues de fresques protégées par des glaces que séparent et retiennent des cadres dorés. Le style de ces fresques et de ces cadres est plus touchant que beau. Et certes, il y a 1000 endroits à Venise qui valent davantage si l'on se place à un point de vue esthétique. Cependant, pour celui qui sait voir avec les yeux de l'imagination et qui cherche à se lier avec les figures du passé d'une intimité sentimentale et que des détails précis enrichissent, nulle part il ne pourra satisfaire plus que dans les salles du Café Florian ce goût d'approcher ce qu'il aurait voulu connaître et qu'il ne connaîtra jamais. Jean-Louis Vaudoyer.
Quand on cherche un Vénitien pour un rendez-vous, je ne dirais pas urgent parce que l'urgence n'a pas de sens à Venise, mais quand on cherche un Vénitien, on vient s'asseoir au Café Florian et on attend. Et au bout d'une heure ou de deux heures, il passe fatalement devant le Café Florian. Néanmoins, ce matin, avec nos habitudes parisiennes, c'est-à-dire d'hommes toujours pressés, nous avons jugé préférable de demander au grand poète Diego Valeri de venir nous rejoindre, et de venir nous rejoindre sous ce chinois qui émeut en nous tant de souvenirs. Puisque Marcel Brion est là, à cette petite table de marbre, est-ce que je pourrais lui rappeler que lorsque je le reçus à l'Académie française, je lui dis « Monsieur, vous vintes souvent, car cela est de rigueur dans les discours académiques, monsieur, vous vintes souvent sous le chinois, et vous faites partie maintenant non seulement de l'Académie française, mais de cette Académie clandestine qui existe au sein de l'Académie française et que j'appellerais volontiers l'Académie vénitienne. Car il y a là toute une tradition, depuis Henri de Régnier jusqu'à Jean-Louis Vaudoyer, auquel vous succédiez d'abord, qui trace, dirais-je, un rio à travers le fleuve, un courant mineur à travers le fleuve séculaire de l'Académie française. Et vous veniez siéger autant parmi les habits verts que parmi les ombres qui se trouvent réunies aujourd'hui autour de cette table. Diego Valeri les a connus particulièrement, il va pouvoir les évoquer. Et je voudrais tout de même rappeler que Diego Valeri est à la fois l'homme qui pouvait le mieux nous entretenir de ce passé français littéraire à Venise, puisqu'il est à la fois le Vénitien excellentissime, il a publié un guide sentimental de Venise, et on s'émerveille que ce terme de sentimental n'ait pas été plutôt accolé nécessairement à toute entreprise de connaître et de visiter Venise, mais il est en même temps un très bel écrivain français. Non seulement il s'est passionné pour la littérature française, et de la plus classique aux expressions les plus modernes, puisque un de ses livres s'appelle « De Racine à Picasso », mais il a aussi publié des poèmes en français. Il est de ces quelques écrivains qui, à travers les siècles d'ailleurs, ont employé la langue française parfois comme un jeu à côté de leur langue natale. Et nous n'avons pas le temps ici de lire de longs poèmes, mais peut-être qu'avant de lui donner la parole verbale, si j'ose ce pléonasme, je pourrais lui donner la parole écrite en lisant 4 vers sur Venise qui nous situeront à la fois l'homme et le lieu. Venise, la gondole, en sortant de la verte splendeur du grand canal, s'enfuit svelte dans l'ombre bleue d'un très petit rio. Un pan de mur, couleur d'ambre, avale ce noir fantôme à longue queue. Eh bien, maintenant, c'est la voix de Diego Valeri que nous allons entendre, puisque je vais lui demander de se mêler à la conversation qui n'a été qu'un monologue jusqu'ici.
Je dois avant tout dire mon émotion pour me trouver avec vous, cher Huyck et cher Brion. Je suis presque à l'académie. Entre deux académiciens.
Vous y êtes déjà, parce que il faut que je rappelle quand même, mais on le sait en France, que vous êtes membre correspondant de l'Institut. Vous êtes un académicien de l'Institut déjà.
Enfin, c'est mon émotion et mon grand plaisir. Vous me faites honneur et plaisir, vraiment. Et me voilà, alors, maintenant, devant quelques difficultés. Il s'agit de parler de Venise. Vous avez lu tout à l'heure un petit poème de moi, 4 vers. C'est presque une esquisse vénitienne, pour reprendre le titre de cher à Henri de Régnier. Le premier livre de Henri de Régnier était intitulé justement « Esquisse vénitienne ». Il portait des illustrations de Thomas.
Si vous nous retraciez à grandes étapes cette fréquentation de Venise, cet amour de Venise qu'on trouve dans la littérature française, on pourrait d'ailleurs remplir toutes les missions avec l'amour de Venise en France.
On pourrait commencer depuis Villehardouin, sa rencontre avec le duc de Venise, qui était vieux homme et ne voyait goutte. Et ils étaient ensemble à la première croisée. En 1201. Et puis, on pourrait descendre très rapidement à Comines. Comines, qui a visité Venise à la fin du 15e siècle. Comines n'était pas un homme à s'emballer de spectacles de nature ou d'art. Il était un animal de sang-froid, n'est-ce pas? C'était un politicien, enfin. Mais il s'était enthousiasmé à Venise. Il a défini Venise la plus triomphante ville qu'il avait connue. Et puis, on pourrait descendre, naturellement. Mais on peut peut-être arriver aux romantiques qui ont renouvelé la vision de Venise.
Et notre cher de Brosse.
Ah, mais oui, j'oubliais.
Un peu mauvaise langue.
J'oubliais de Brosse, qui a visité Venise avec tant d'attention, et qui l'a décrite avec un peu d'impertinence aussi, n'est-ce pas?
Il y avait un peu d'envie, je crois, devant une ville qui était.
En tout cas, il a admiré les Vénitiens et les Vénitiennes, surtout,
beaucoup,
naturellement. Et il trouvait que les Vénitiens avaient un sang doux, n'est-ce pas? Parce que la ville était faite, paraît-il, pour commettre des crimes, n'est-ce pas? Pour noyer des gens, n'est-ce pas? Sans se faire apercevoir. Mais au contraire, il n'arrivait jamais à rien à Venise. Tout était tranquille, tout était doux, et c'est l'impression qui domine dans les lettres de Brosse. Mais naturellement, il y a certaines pointes ironiques qui étaient dans son caractère, qui devaient y être. Alors, de Brosse, nous avons dit, et puis le romantique, alors c'est le grand fleuve, la grande rivière romantique, n'est-ce pas? On pourrait commencer même par Rousseau, mais Rousseau n'a pas vu un romantique, un pré-romantique, si vous voulez, Venise. Il a vu simplement un visiteur, n'est-ce pas? Un visiteur du soir, on pourrait dire. Il aimait en effet, surtout le soir, musicaux, n'est-ce pas? Il allait dans le théâtre, il écoutait les concerts.
Il est bien musicien.
Il a admiré surtout la musique à Venise. Et puis on pourrait rappeler même cet épisode de Candide de Voltaire.
Le carnaval.
Les rois de Chu qui sont ici et qui jouent, n'est-ce pas? Passent leur journée en juin, et puis les sénateurs poco curante.
Ils devaient tous venir, d'ailleurs, au Café Florian. Sûrement, on les aurait rencontrés.
C'est ça. Mais alors, le romantique, nous disions, Alors, c'est peut-être Madame de Staël qui a commencé, n'est-ce pas?
Oui.
Madame de Staël,
Corinne, en effet,
a situé la scène centrale de son roman de Corinne à Venise. C'est ici que Oswald se sépare de Corinne, refuse Corinne. Enfin, c'est la grande déception de Corinne à Venise. Et alors voilà une Venise déjà colorée en noir, n'est-ce pas, ou bien en brun, si vous voulez. Et puis c'est Chateaubriand. Chateaubriand a fait deux visites, si vous vous rappelez, à Venise en 1806 et en 1832. Il y a une grande distance d'âge, n'est-ce pas. Lorsqu'il est venu la première fois, il a été très déçu. Et il a dit des choses très désobligeantes sur Venise. C'est peut-être relevé à Venise, remarqué à Venise, il y a eu même une petite polémique, n'est-ce pas? Bon. Mais, somme toute, une première rencontre assez malencontreuse. Mais la deuxième fois, alors, il était préparé à admirer Venise.
Que ne puis-je m'enfermer dans cette ville en harmonie avec ma destinée? Dans cette ville des poètes, où Dante, Pétrarque, Byron passèrent. Que ne puis-je achever d'écrire mes mémoires à la lueur du soleil qui tombe sur ces pages? L'astre brûle encore dans ce moment mes savanes floridiennes et se couche ici à l'extrémité du Grand Canal. Je ne le vois plus, mais à travers une clairière de cette solitude de palais, ses rayons frappent le globe de la douane, les antennes des barques, les vergues des navires, et le portail du couvent de Saint-Georges Majeur. La tour du monastère, changée en colonne de rose, se réfléchit dans les vagues. La façade blanche de l'église est si fortement éclairée que je distingue les plus petits détails du ciseau. Les enclôtures des magasins de la Giudecca sont peintes d'une lumière titienne. Les gondoles du canal et du port nagent dans la même lumière. Venise est là, assise sur le rivage de la mer comme une belle femme qui va s'éteindre avec le jour. Le vent du soir soulève ses cheveux embaumés. Elle meurt, saluée par toutes les grâces et tous les sourires de la nature. Chateaubriand.
Elle a senti intimement, n'est-ce pas, parce qu'il était déjà, il se sentait déjà vieux. Et alors, il dit, quelque part dans ses mémoires d'outre-tombe, lorsqu'il parle de Venise, il dit qu'il est doux d'être à Venise et de se sentir mourir dans une ville qui meurt. Il y avait une rencontre, enfin, sentimentale.
Voilà le début du côté funèbre du romantisme qui a jeté un crêpe sur Venise, bien injuste, je trouve, voilà, car le soleil le dissipe.
Depuis ce moment-là, Venise est toujours habillée en veuve, n'est-ce pas, est toujours en crêpe noire, la gondole est un cercueil, etc. Tout cela.
Il n'y a que les jeunes mariés et les amants qui se rendent compte, au contraire, que Venise est très vivante et un beau cadre pour la vie.
C'est ça. Et puis, alors, il y a la grande aventure de Musset et de Georges Sand, 1834. Tout le monde la connaît, enfin, cette aventure.
Et qui dira que Venise ne joue pas le rôle du vivant et même du bon vivant avec Pagello dans cette affaire? Ce n'est pas une ville mortuaire, voyons.
C'est ça. C'est le temps où le Lido était un désert, n'est-ce pas? L'affreux Lido, comme dit de Musset.
Ou galopait Byron, à cheval, ça vient embarrasser.
Byron,
un sauteur d'obstacles.
Byron est peut-être le plus grand responsable de cette vision vénitienne funèbre. Parce qu'il avait écrit en 1816 une ode intitulée Ton Venice. Et c'était Venise qui descendait dans ses eaux. C'est presque prophétique, n'est-ce pas? Tout le monde sait que maintenant Venise est menacée de cet effondrement.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines, et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive. Si moi, pèlerin du Nord, je pleure sur toi, que devraient faire tes fils? Tout, hormis pleurer. Cependant, ils n'osent murmurer que dans leur sommeil. Quel contraste avec leur père! Ils sont, à ceux qui les ont précédés, ce que le lourd limon verdâtre que laisse la mer en se retirant est à la vague impétueuse et écumante qui rejette vers sa rive natale le matelot sans son navire. Ils rampent et s'aplatissent comme des crabes le long des fossés qui leur servent de rue. Oh, misère! Voilà donc la moisson qu'ont produite les siècles. 1300 ans d'opulence et de gloire s'effondrent dans la poussière et dans les pleurs. Et chaque monument que l'étranger rencontre, église, palais ou colonne, lui apparaît comme sous un voile de deuil. Ton lion lui-même semble honteusement apprivoisé. Et le son brutal d'un tambour barbare, en s'éveillant lugubrement chaque jour, fait écho à la voix de ton tyran au-dessus de ces vagues si douces, qui, jadis chargées de gondoles, ne répétaient au clair de lune que des chants mélodieux ou que le murmure de la foule joyeuse. Les plus coupables de tes enfants n'avaient alors à se reprocher que la trop vive ardeur de leur cœur, gonflée de trop de joie, ardeur que l'âge seul apaise en ralentissant le cours voluptueux des enivrantes sensations dont bouillonne le sang. Mais que sont ces fautes généreuses auprès des sombres erreurs, herbes mauvaises qui croissent chez les nations en décadence? Lord Byron.
On pensait que c'était une métaphore, que c'était la fin de la République, la fin de l'Empire vénitien, enfin, qui s'est présenté sous cet aspect de descente dans les eaux, enfin, de la nouvelle Palmyre, de ce désert qui est la mer. C'est Byron le grand responsable, sans doute. Mais et puis tous les Français qui l'ont suivi, qui sont venus après lui.
C'est parce qu'il était malade à Venise, Byron, je pense. Tous les gens qui l'ont connu à ce moment, à la fin de son séjour, disent qu'il était boursouflé, qu'il se portait mal. Il y a là la projection d'une mauvaise santé, je pense.
Je ne sais pas exactement, mais on parle encore de ces galopades au Lido, etc. Et puis, qui nageait, il paraît-il, du Lido jusqu'à Venise. Je crois qu'il y a des exagérations là. Mais en tout cas, il souffrait beaucoup dans son amour propre d'homme, n'est-ce pas, de mal, parce qu'il avait une jambe malade, des boiteux enfin. Oui. Et alors, dans certains témoignages de ce temps-là, il y a la silhouette, on dessine la silhouette de Byron qui va le long des murs, n'est-ce pas, qui entre dans les salons et s'assied tout de suite la première chaise qu'il rencontre, etc., etc. Bon, je pense que c'est cela.
On appelle mais ça alors, aujourd'hui un complexe, n'est-ce pas,
français,
le complexe alors, du pied beau, dirait le psychanalyste.
Alors après, beaucoup de rencontres françaises encore, n'est-ce pas, Lamartine. Et dans son discours de réception à l'Académie,
déjà.
a parlé de Venise, oui. Toujours avec ce sentiment de tristesse, de faim irréparable.
Et Gautier.
Gautier, variation sur le carnaval de Venise, sur l'air du carnaval de Venise. C'est magnifique, n'est-ce pas, ce tableau 18e siècle, n'est-ce pas, c'est magnifique. Venise pour le bal s'habille.
Venise pour le bal s'habille. De paillettes tout étoilées, scintillent, fourmillent et babillent le carnaval bariolé. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre, son souffre-douleur. Battant de l'aile avec sa manche, comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot, par une blanche, passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bolognais rabâche avec la basse au son traîné. Polichinelle, qui se fâche, se trouve une croche pour nez. Heurtant Trivelin qui se mouche avec un tri extravagant, à Colombine, Scaramouche rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse un domino, ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses aux paupières de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur cet arpège, m'a dit, c'est elle, malgré tes réseaux, j'en suis sûr. Et j'ai reconnu rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, sa lèvre au fin duvet de pêche et la mouche de son menton.
Oh, il y a... Nous oublions certainement quelqu'un, n'est-ce pas? Mais... Alors nous arrivons à la nouvelle vague.
Au gendre de Heredia, d'ailleurs.
À la nouvelle vague. C'est la vague, justement, de Barrès, de Suarez, de Régnier, de Henri de Régnier.
De gendre.
etc. Alors, c'était une Venise alors différente, en effet. Barrès voit toujours cette Venise triste, déchue, mourante, enfin. Et il l'aime beaucoup dans ce volume
Amaury,
du sang de la volupté de la mort, n'est-ce pas? C'est sa Venise à lui, n'est-ce pas? Évidemment, il ne pouvait pas avoir une autre Venise, voir une autre Venise.
La terre, elle est morte, disait-il.
Oui, l'eau, elle est morte.
C'est ça. Il faudrait peut-être rappeler aussi que Debussy a écrit son premier drame avant d'avoir connu Venise, n'est-ce pas? Mais c'était La nuit vénitienne.
Ah, mais oui, une vocation. Oui,
c'est une chose qui me revient à la mémoire tout à coup. Mais alors Barrès, et puis au contraire Suarez, qui reconnaissait en Venise au contraire une ville vivante, très vivante, et qui donnait aux esprits une poussée, n'est-ce pas, particulière, un essor. Il disait, ce n'est pas vrai que Venise, il disait à peu près, n'est-ce pas, ce n'est pas vrai que Venise est une ville calme, est la ville du calme. Elle est la ville où on est indifférent à tous les grands sentiments. Et je trouve qu'il disait très bien, n'est-ce pas, qu'il disait très bien, comme il a souvent dit très bien. Je voudrais dire, entre parenthèses, que je trouve qu'il est un peu trop oublié, André Suarez, même en France.
On revient en ce moment, il me semble. Il y a eu
Il revient.
Mais est-ce que nous n'avons pas sauté Balzac dans tout ça aussi?
Deux lettres à Comtesse Maffei. La première, il n'est pas très enchanté de Venise, ou l'autre, il fait un monde honorable, au contraire, il chante, il se place déjà parmi les mordus de Venise.
À la comtesse Clara Maffei. Venise, mardi 14 mars 1837. Cara contessina, nous sommes arrivés ici ce matin, mon compagnon de voyage et moi, escortés par une pluie averse qui ne nous avait pas quittés, sic, depuis Vérone, en sorte qu'il était difficile que je ne visse pas Venise sortant des eaux. Si vous me permettez d'être sincère, et si vous voulez ne montrer ma lettre à personne, je vous avouerai que, sans fatuité ni dédain, je n'ai pas reçu de Venise l'impression que j'en attendais. Et ce n'est pas faute d'admirer l'état de pierre et les œuvres humaines, car j'ai le plus saint respect pour l'art. La faute en est à ces misérables gravures anglaises qui foisonnent dans les keepsakes, à ces tableaux de la Légion de ces exécrables peintres de genre, lesquels m'ont si souvent montré le palais ducal, la piazza et la piazzetta, sous tant de jours vrais ou faux, dans tant de postures, sous tant d'aspects débauchés, avec tant de licencieuses fantaisies de lumière, que je n'avais plus rien à prêter au vrai, et que mon imagination était comme une coquette qui a tant fatigué l'amour sous toutes ses formes intellectuelles, que quand elle arrive à l'amour véritable, à celui qui s'adresse à la tête, au cœur et au sens, elle n'est saisie nulle part par ce saint amour. Puis j'avais tant vu de marbre sur le dôme que je n'avais plus faim des marbres de Venise. Les marbres de Venise sont une vieille femme qui a dû être belle et qui a joui de tous ses avantages, tandis que votre dôme est encore tout pimpant, tout jeune, tout paré comme une mariée d'hier, avec ses blondes, ses mantilles découpées, brodées, ses tulles frais, ses cheveux brossés et lissés, son cou d'albâtre. Enfin, la pluie mettait sur Venise un manteau gris qui pouvait être poétique pour cette pauvre ville qui craque de tous côtés et qui s'enfonce d'heure en heure dans la tombe. Mais il était très peu agréable pour un Parisien qui jouit les deux tiers de l'année de cette mante de brouillard et de cette tunique de pluie. Il est un point qui me ravit. C'est le silence de cette moribonde. et cela seul me ferait aimer l'habitation de Venise et va à mes secrètes inclinations qui, malgré les apparences, tendent à la mélancolie. De Balzac. À la comtesse Clara Maffei, Venise, dimanche 19 mars 1837. Cara contessina, j'ai tout à fait changé d'opinion sur la belle Venise que je trouve tout à fait digne de son nom. Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui que le temps menace de se brouiller et de me rendre pour mon retour l'horrible pluie que j'ai eue pour venir, nous avons eu le vrai soleil de l'Italie et le plus beau ciel du monde. Je ne vous répéterai pas les exclamations de tous les voyageurs sur les canaux, sur les palais, sur les églises, d'autant plus que j'ai vu tout très à la hâte et que je suis convaincu qu'il faut, pour voir Venise, beaucoup plus de temps et de loisirs que je n'en ai eu. De Balzac.
Je disais tout à l'heure qu'on oublie certainement des grands noms même. Nous avons oublié Montesquieu, par exemple, etc. Enfin, ceux qui se sont occupés de la constitution politique de Venise, qui l'ont tant admiré, n'est-ce pas? Je crois que c'était un ambassadeur français. C'était un ambassadeur français. Le comte d'Avaux qui disait « Il y a quelque chose de plus admirable » que la fondation de Venise sur de la fange, enfin. Et c'est sa constitution qui résiste à tout, qui garde cette uniformité à travers des événements tellement troublants. Enfin.
Elle a toujours émerveillé le monde, d'ailleurs.
Uniformité et souplesse, en même temps. Ce qu'il y a de beau aussi, c'est l'accord de la vie vénitienne, de l'intelligence vénitienne avec la vague de la mer, qui fait que dans sa politique, elle conserve aussi ce côté ondoyant, cette légèreté qui permet à une vague d'en surmonter une autre et d'atteindre tout doucement la plage.
Oui, c'est vrai.
Et si nous remontons dans le temps, nous avons encore d'autres oublis. Nous avons oublié Du Bellay et Montaigne.
Montaigne.
Il n'y trouva pas cette fameuse beauté qu'on attribue aux dames de Venise, et vit les plus nobles de celles qui en font trafic. Mais cela lui sembla autant admirable que nulle autre chose d'en voir un tel nombre, comme de 150 ou environ, faisant une dépense en meubles et vêtements de princesse, n'ayant autre fond à se maintenir que de cette trafic. Et plusieurs de la noblesse de là même avoir des courtisanes à leurs dépens, au vu et au su de chacun. Il louait pour son service une gondole pour jour et nuit à 2 livres, qui sont environ 17 sols, sans faire nulle dépense aux Barquerolles. Les vivres y sont chers comme à Paris, mais c'est la ville du monde où on vit à meilleur compte, d'autant que la suite des valets nous y est du tout inutile, chacun y allant tout seul, et la dépense des vêtements de même, et puis qu'il n'y faut nul cheval.
Revenons à... Alors, notre groupe du début du XXe, n'est-ce pas?
La secte du Chinois.
Ah oui, la secte du Chinois. Parlez-nous des gens qui s'asseyaient sur cette banquette rouge.
On disait alors, n'est-ce pas, Barès, Suarez, de Régnier. Mais il ne faut pas oublier Proust, naturellement.
Également.
Alors, Proust a imprimé à Venise son sceau, n'est-ce pas? Il a créé une Venise qui n'est pas bien ressemblante à la Venise réelle, évidemment. C'est sa Venise à lui, n'est-ce pas? Il l'a créée de toutes pièces, on dirait. Et sur des éléments de mémoire et de fantaisie qu'on ne retrouve pas dans la réalité de Venise, évidemment, qu'on ne peut pas retrouver. Mais c'est une suggestion admirable, n'est-ce pas? Ces pages sur Venise qu'il a visitées avec sa mère à l'hôtel Europe. Et puis il a visité Padoue et les fresques du Giotto, etc. Ce sont des pages, je pense, parmi les plus belles de son œuvre, n'est-ce pas?
Et le groupe et du puis, Chinois?
Alors nous sommes au Chinois et à Henri de Régnier. Henri de Régnier a été le plus fidèle dans un sens complet du mot, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui a regardé avec plus d'attention, avec plus même d'humilité, si on peut dire, n'est-ce pas, Venise, qui n'a pas ignoré la réalité de Venise, qui l'a voulu comprendre, qui l'a aimé, Et c'est à cause de cela que nous lui donnons une place tout à fait spéciale dans notre palmarès, enfin, des amis de Venise. Je ne l'ai pas connu personnellement, Henri de Régnier. Henri de Régnier a fait plusieurs séjours depuis 1899 jusqu'à 24.
Il a souvent logé au palais d'Ario.
Si je me rappelle bien. Alors, il a été assez souvent chez madame Bulteau,
voilà,
qui habitait le palais d'Ario, et qui était un peu la directrice de ce cénacle, n'est-ce pas, et l'inspiratrice aussi de ce petit cénacle, en grande partie français. C'est le temps même où D'Annunzio paraissait parfois dans la petite maison rouge qui est presque en face du palais d'Ario, où habitait justement la duchesse de la Baume, je crois, qui était la propriétaire, et madame Bulteau, qui était sa conseillère, son amie et sa conseillère. Il habitait là, il faisait de grandes promenades à travers Venise, il visitait les petits négoces des antiquaires, etc. Il faisait une vie vénitienne, tout à fait vénitienne. Il a cherché à se faire vénitien. Et c'est cela qui nous touche particulièrement.
Et savez-vous que les meubles vénitiens, les objets vénitiens d'Henri de Régnier sont passés en vente à Paris sans qu'on le sût, pour ainsi dire, il n'y a pas bien longtemps. Tout cela avait été conservé par sa femme, et puis quand elle est morte, ça a été à ce moment-là dispersé.
Malheureusement, oui. Mais enfin, il y a aussi les poèmes. Les poèmes vénitiens,
les poèmes
très, très gentils, très, très, très fins, très, très délicats, qui sont vraiment des choses vénitiennes admirables, avec ces accents à la française, n'est-ce pas, les Carmini, Vendramini, etc. Ce sont des choses pour nous très...
Et on pourrait dire que ce qu'il y a, le retournement que fait Henri de Régnier, c'est que la mélancolie n'est plus dans Venise, mais au contraire, Venise est si bruyante de vie et de joie de vivre que c'est lui qui est mélancolique de se sentir passer avec l'heure. Ah, c'est un retournement.
C'est ça, c'est
lui qui a le mieux exprimé ce sentiment, ce rapport du passage même... des heures dans une éternité qui est Venise.
C'est l'heure la plus belle et le plus beau matin du reste de ta vie que tu goûtes peut-être en ce petit jardin sous ce ciel d'Italie. Le dahlia, la sauge avec l'œillet poivré et la rose d'automne fleurissent dans l'air pur, transparent et doré où l'abeille bourdonne. Derrière le mur rouge où grimpent en feston la vigne et la glycine, une fille frappe la dalle du talon dans la cale voisine. Puis tout se tait et le silence de nouveau s'étale, s'éternise, jusqu'à ce que le bruit d'une rame sur l'eau le disperse et le brise. Le rio, la cale, le ciel et le jardin, cette cloche qui sonne, et ce silence, et cette odeur, et ce matin, et ces roses d'automne. Oh, mon cœur, tout cela qui passe, tout cela qui te charme et t'enchante, jouis-en, oh, mon cœur, car chaque instant s'en va, et nulle heure n'est lente. Et cependant, que te faut-il pour que tu sois plein d'une flamme alerte? Il suffit du parfum de ces fleurs que tu vois par la fenêtre ouverte. Aurais-je cru jamais que tu fusses content de si peu, cœur avide, toi qui rêvais jadis quelque illustre tourment ou battre plus rapide? Mais à quoi bon ce songe? Et qu'importe ces vœux où le destin s'oppose? Car c'est ceci que j'aime et ceci que je veux, sans qu'il soit autre chose. C'est un étroit jardin auprès d'un vieux canal sous ce ciel d'Italie où sonne, avec un bruit de soie et de cristal, une heure où tout s'oublie. Henri de Régnier.
Et puis alors, il y a notre ami Vaudoyer.
Jean-Louis.
Inoubliable.
Inoubliable.
Qui a continué, quelque façon, l'œuvre d'Henri de Régnier.
Oh, vous savez, sa découverte de Venise. Mais je crois qu'il vous l'a confié, cher Brion, un jour, cette manière d'aborder
avait
Venise.
Une telle dévotion pour Venise avant d'y être jamais venu. Et il comprenait tellement que cette ville devait être la reine de l'univers que la première fois qu'il est venu à Venise, il s'est dit « Comment pourrais-je me chausser ?» afin que mes pieds soient dignes de fouler les dalles en pierre bistrie de cette ville. Et alors il s'est dit, je ne peux pas me promener à Venise en chaussures ordinaires, il faut que je vienne en escarpins. Mais comme tout de même des escarpins noirs étaient un peu tristes pour la journée, Vaudoyer, venant à Venise pour la première fois, n'a apporté que deux paires de chaussures, une paire d'escarpins noirs pour le soir et une paire d'escarpins jaunes pour la journée. Et c'est ainsi que Vaudoyer, triomphalement, arpentait les cahiers de Venise avec ses beaux escarpins jaunes jusqu'à ce que vienne le crépuscule.
Noir et or, n'est-ce pas ? Cette mélancolie de la mort pour les uns et cette joie de la vie pour les autres.
Vaudoyer, que vous avez très bien connu comme moi, n'est-ce pas ? Était un homme adorable, n'est-ce pas ? D'une bonté, d'une clarté d'âme, d'une splendeur d'âme. Admirable.
Et vous dirais-je que dans ces dernières années où il était immobilisé et où il avait gardé sa vivacité merveilleuse d'esprit mais avec une mélancolie, j'allais le voir bien entendu souvent et un leitmotiv qui revenait c'était celui-ci, je ne peux plus marcher, je n'irai plus jamais à Venise. Et c'est un des regrets de la vie qu'il emportait.
Je sais bien cela parce que je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Et je l'ai vu le jour après sa mort. J'étais à Lausanne lorsque André Champson, qui est lui aussi dans le jury du prix Veillon, où je suis depuis très longtemps, m'a dit, si vous voulez voir encore Jean-Louis, vous devez partir immédiatement, vous devez aller à Paris. Je suis parti immédiatement et je suis arrivé. Et le matin, j'ai acheté un journal et j'ai vu qu'il était mort. Alors je le vis mort. Il était encore beau, n'est-ce pas,
oui.
Avec son beau visage de Gaulois, n'est-ce pas,
c'est avec les moustaches, dans la tradition d'Henri de Régnier.
Il était magnifique.
Qui avait aussi, mais plus discrètement, Émile Henriot, qu'il ne faudrait pas que nous oublions dans ce groupe, n'est-ce pas. Avec Paul Alfassa aussi, n'est-ce pas. Il y a eu là toute une pléiade.
Ça tient peut-être au groupe du Chinois, puisque le Chinois sous lequel nous sommes assis porte aussi de longues moustaches à la Henri II et à la Vaudoyer.
Voilà
pourquoi ils sont conservés. C'était peut-être le signe de reconnaissance de cette secte secrète du Chinois.
Et quand Henri de Régnier donnait ses rendez-vous, il disait...
À 5 heures, sous le Chinois. C'est un charmant personnage que le Chinois. Sur le mur où il est peint à fresque, il se dresse aimable, souriant et fier. Il est vêtu d'une courte robe de soie bleue que ferment des boutons de corail et chaussé de souliers précieusement arrondis. Il a le visage de sa race et il a le teint agréablement jaune. Ses longues et fines moustaches de mandarin sont tombantes comme il sied et selon la mode de ses congénères des potiches. Les manches de son vêtement sont naturellement pagodes. De la toque qui le coiffe s'échappe une belle natte bien tressée. Ses yeux obliques et bridés vous regardent avec un air d'affabilité souriante, qui n'est pas sans ironie. Il est fier et il a raison de l'être, car il n'est pas seulement un Chinois, il est le Chinois. Il est même l'Asiatique, car il représente l'Asie en compagnie des autres figures costumées qui symbolisent, sur les autres panneaux, les parties du monde et qui forment la décoration d'une des salles du Café Florian, où nous venons souvent nous asseoir dans le coin qu'il occupe et qu'il semble nous réserver. Aussi est-il devenu une sorte de point de ralliement et la phrase « à 5 heures sous le Chinois » veut dire que l'on se retrouvera au Florian à ce moment de la journée, sur la banquette de velours rouge, devant la table de marbre, où l'on nous servira le punch à l'alkermesse, ou quelques petits verres de marasquin, puisque la grappa est proscrite des cafés comme il faut de Venise. Henri de Régnier.
Eh bien, enfin, je ne finirai pas de parler de Vaudoyer, qui a été plus qu'un ami pour moi. Qui a écrit pour moi des choses très belles, vraiment très belles. Je ne parle pas comme personne qui entre dans cet intérêt, enfin, mais en critique, voudrais-je dire, n'est-ce pas? Des pages superbes sur le vers français, en fait, très belles.
Oui, il vous aimait beaucoup, il me parlait toujours de vous. Oui, et quand nous parlions de Venise, c'était inséparable de Diego Valéry. Quand vous irez à Venise, allez porter mon souvenir à Diego Valéry.
Et voilà, et le pauvre Vaudoyer s'en est allé, lui aussi, et tant d'amis. Enfin, c'est le sort de tout le monde, enfin. Et nous attendons notre heure.
Mais le violon joue. Et voilà que le violon commence cette musique éternelle de Venise et qui nous montre que la vie passe, mais elle ne cesse jamais, comme le fleuve du Grand Canal.
Mais nous sommes vraiment dans l'atmosphère vénitienne. Vous savez, on divague dans Venise, on se promène dans Venise, et puis on s'éloigne d'une place et brusquement on s'y retrouve. Et pendant que je me promenais avec vous, tout d'un coup j'ai pensé à une ombre que nous avons frôlée et que nous avons oublié d'évoquer, qui faisait partie du groupe d'Henri de Régnier, d'Edmond Jaloux, de Paul Alfassa, de Vaudoyer. C'est Edmond Jaloux.
Edmond Jaloux, il ne faut pas l'oublier naturellement. Edmond Jaloux était un esprit tellement clair, tellement lucide, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai eu de lui vraiment des illuminations, je voudrais dire, n'est-ce pas, critiques. C'était un Français d'une pureté, n'est-ce pas?
Et comme Brion, il conciliait tout, car c'était un Marseillais, donc un Méditerranéen, mais qui avait découvert le génie germanique. Très parallèle à Brion.
Et Jaloux l'expliquait d'une façon d'ailleurs très curieuse. Il expliquait que pendant le Moyen-Âge, la Provence était terre d'empire. Le Rhône divisait d'un côté royaume, de l'autre côté empire, à tel point que les bateliers du Rhône avaient comme signe, si vous voulez, le cri, l'équivalent du cri du gondolier, empire d'un côté et réaume de l'autre. Eh bien, Jaloux prétendant que nous, Provençaux, ayant été au Moyen-Âge terre d'empire, nous avions reçu déjà dès cette époque une espèce d'imprégnation de culture germanique.
Mais c'est ce qui vous prédestinait à Venise, car Venise, qu'est-ce que c'est sinon une ville qui est au fond de la Méditerranée comme Marseille et qui débouche sur l'Allemagne comme vous l'avez fait dans votre œuvre et comme Jaloux l'a fait continuellement? Vous voyez bien que vous étiez des prédestinés.
Et puis à Venise, on voit tout le monde, n'est-ce pas? C'est commode,
d'ici,
parce qu'on habite à Venise, on voit Paris, on voit passer Paris, enfin voilà, mais voilà à Venise et me voilà à Paris.
Et qui avez-vous encore vu passer comme ça, les passants de la littérature parisienne et française?
Je vois très souvent un très cher ami, un très cher poète, Jean Tardieu. Jean Tardieu, qui est un homme délicieux, vous le savez bien, n'est-ce pas? Un poète délicieux.
Claude Aveline
l'accompagne. À qui vient de partout les trésors de Venise que sont le ciel, la pierre et l'eau? Le trésor des Vénitiens, c'est moi. Je suis la feuille sur sa tige. Je suis la branche évadée d'un harem végétal, égoïstement clos, pour donner aux passants une caresse d'ombre. Je suis la vigne vierge, je suis le chèvrefeuille, je suis le platane sur la place carrée où tournent des enfants. Je suis la plante dans son pot, accrochée sous mille fenêtres, le basilic, le géranium, la sauge, le jasmin. Pour cette ville aux chats sauvages, je suis l'animal domestique. Je bois, j'ai froid, la nuit, je m'offre à la lumière, je réponds aux regards qui m'aiment. Ni le ciel ni l'eau ne meurent. La pierre fait la tombe de l'homme non moins que son palais, tandis que nous partageons la respiration du monde, guetté par le même hiver. Claude Aveline.
Claude Aveline. Assez souvent. Maintenant, je crains qu'il nous a trahis pour la Bretagne, n'est-ce pas? Parce qu'il avait toutes les bonnes intentions de se fixer à Venise, quelque temps, quelques mois, le mois d'été, le mois meilleur, enfin, pour Venise. Mais maintenant, il s'est dirigé, s'est orienté vers la Bretagne.
Vous voyez, vous avez parlé de la Bretagne, la barcarolle que nous entendions jouer par l'orchestre vient de cesser pro pudor. Voilà la condamnation de cette
personne. Je ne me trompe pas, c'est Chateaubriand qui trouvait certaines ressemblances entre la Bretagne et Venise.
Et voilà. Oui, oui, oui.
Voilà quelqu'un qui avait trouvé la vérité. Hein?
Il disait sous l'autorité de Strabon, il disait que c'était de Venette qui avait habité l'Armorique, enfin l'ancienne Bretagne, n'est-ce pas, et qui était descendu à Venise. Bon, c'est de la science, je pense, de la fantascience.
Mais ça nous aide à pardonner à vous.
À moins que ce soit les Vénitiens qui aient colonisé la Bretagne, ce qui ne serait pas invraisemblable non plus.
Eh bien, le breton Chateaubriand écrit: « Je cherchais en me réveillant pourquoi j'aimais tant Venise, quand tout à coup je me suis souvenu que j'étais en Bretagne. La voix du sang parlait en moi. N'y avait-il pas autant de César en Armorique, un pays des Vénètes, Civitas Venetum, Civitas Venetica ?» Strabon n'a-t-il pas dit qu'on disait que les Vénètes étaient descendants des Vénètes gaulois?
Oui.
Bon, passons l'éponge sur le cadre.
Ce cortège de vivants et de morts, d'écrivains qui ont été nos amis d'hier ou nos admirés d'autrefois, ce cortège répond à la phrase chère à Henri de Régnier, « Allons-nous perdre dans Venise ?» Mais qu'est-ce que c'est qu'aller se perdre dans Venise? Tous les écrivains dont vous venez de parler nous l'ont appris. Aller se perdre dans Venise, c'est aller se retrouver. C'est aller se retrouver soi-même. Non pas voir une ville étrangère, non pas pénétrer dans un monde exotique différent de soi, mais en réalité, aidé par cette ville, aidé par sa beauté, aidé par son mystère aussi, retrouver ce que l'on a en soi de plus essentiel et de plus profond.
Mais je viens de comprendre un vieux symbole, c'est le symbole du labyrinthe. Le labyrinthe, et Jung a montré combien il dure à travers les imaginations, c'est d'errer, on finit par trouver le centre qui est soi-même. Eh bien, disons que c'est le labyrinthe des ruelles vénitiennes qui nous donnera ce symbole.
Et comme Léonard de Vinci l'avait montré quand il avait dessiné le labyrinthe pour Vigevano, pour la villa des Sforza, il avait placé au centre du labyrinthe une chambre hexagonale qui était une chambre de miroir. L'homme qui arrivait au centre du labyrinthe se retrouvait lui-même, mais multiplié par mille et indéfiniment répété dans les miroirs.
Le mouvement des ondes sonores va sur Venise comme l'ondulation perpétuelle de l'eau sans heurts et sans fatigue. Les sons jamais ne nous y donnent de choc. On les goûte, on connaît leur qualité et leur sens. Tandis que l'eau se déplace avec un frais murmure sous le poids de mon gondolier, j'entends au loin s'approcher, s'effacer les pas d'un promeneur invisible dont je distingue la jeunesse légère ou l'âge alourdi. Et dans ces quartiers solitaires, la chaussure d'un étranger ne fait pas le claquement des sandales de bois d'une humble vénitienne. Inappréciable netteté de ces sensations qui viennent avec abondance émerger sur notre organisme délicieusement hyper-esthésié. Une telle tension nerveuse serait intolérable dans un climat sec, mais Venise nous baigne, et, sauf les jours de sirocco, ne nous laisse pas savoir que nos nerfs sont à vif. Pour les yeux non plus, rien n'est incertain ou confus dans Venise. Nous y recueillons sans trêve des images distinctes qui jamais ne se heurtent, et de quelque point qu'on les embrasse, elles se disposent merveilleusement. La pauvre loque jaune, violette ou rouge qui sèche sur une fenêtre fait à elle seule une valeur somptueuse, en même temps qu'elle concourt au romantisme général du palazzo, rose et lumineux par en haut, vert et humide par en bas, et de tout le canal qui s'enfonce avec ses barques stationnaires, avec ses poteaux d'amarre, avec ses eaux miroitantes ou mornes. Dans ces paysages de pierre, si de quelque petit jardin un arbre élève ses hautes branches, et par-dessus un mur les abaisse sur le sentier d'eau qui les reflète, cette rareté végétale ajoute un miracle de jeunesse aux prodigalités de l'invention architectonique. Maurice Barrès.
Histoire et légende, vers et prose, spleen et idéal, grandeur et décadence, Dichtung und Wahrheit, tout a été déjà mis en œuvre pour traduire par des mots l'ineffable beauté de cette ville. Résultat de ce travail, beaucoup de pages admirables, mémorables même, mais non pas une page qui vous donne la clé du mystère. Si l'on continue à écrire de Venise, ce n'est donc pas qu'on espère en achever sa louange, mais seulement pour soulager son âme. Dante parle ainsi de Béatrice, et c'est ainsi que nous parlons de Venise, notre amour en forme de ville. Dante parla così di Beatrice e noi parliamo così di Venezia, nostro amore in forma di città.
C'était Entre Murano et le Café Florian, avec la participation de Diego Valeri, Ludovico De Luigi et des maîtres verriers Barovière et Tozzo. Au cours de cette émission, vous avez entendu des textes de Chateaubriand, Montaigne, Rousseau, Balzac, Byron, Musset, Henri de Régnier, Maurice Barrès, Madame de Staël, Gabriele D'Annunzio, Théophile Gautier, Jean-Louis Vaudoyer, Claude Evelyne. Ainsi s'achève Heure vénitienne, une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrée à Venise par René Huyg et Marcel Briand de l'Académie française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 octobre 1969.